pas faux. L'émission qui vulgarise sans être vulgaire.
Ouais, c'est pas faux.
Bonjour tout le monde, bonjour Axel.
Bonjour Simon, bonjour à toutes et à tous.
Bienvenue dans votre nouveau numéro de C'est pas faux, l'émission de culture scientifique de Radio Phoenix.
Nous sommes ravis de vous accompagner aujourd'hui, comme chaque mardi à midi, pour parler science avec différents invités.
Nous sommes le 2 avril et aujourd'hui on parle de la diffusion des sujets scientifiques grâce à l'art.
Parler de science est souvent assez compliqué, c'est pourquoi Marie Capuccia a créé les éditions Axolotti, une structure engagée en faveur de la sensibilisation à l'environnement par l'art et la science. Elle s'occupe aussi de l'agence artistique Artemis, aussi engagée sur les questions liées à la nature.
Et c'est justement elle qui est notre invitée aujourd'hui pour parler de tout ça à notre micro.
Mais avant cela, c'est l'heure des infos sciences de la semaine. Le réchauffement climatique joue un rôle dans la vitesse de la rotation de la Terre, c'est le constat inquiétant d'une étude scientifique.
Oui, notre planète semble tourner au ralenti, c'est ce que révèle une étude publiée mercredi dans la revue Nature, et c'est d'autant plus étonnant que normalement la rotation de la Terre est censée s'accélérer et non l'inverse. Oui mais voilà, selon l'étude, la fonte des glaces causée par le changement climatique gagne l'ensemble des mers et océans de la planète et augmente la masse de la Terre au niveau de l'équateur et ralentit donc la rotation.
Et quelles seront les conséquences de ce ralentissement? Est-ce qu'on doit s'inquiéter?
Alors pour le moment, rien d'inquiétant, ce ralentissement est imperceptible pour l'être humain, mais il nécessitera de reporter le retranchement d'une seconde sur l'horloge internationale. Ce retranchement lié à la rotation inconstante était prévu pour 2026, mais à cause de la fonte des glaces, il devrait plutôt intervenir vers 2029, et ça représente un saut dans l'inconnu pour la communauté scientifique. Certains craignent même qu'il arrive ce qu'on redoutait avec le bug de l'an 2000. Au Japon, une bactérie mangeuse de chair inquiète tout le monde.
Oui, cette bactérie, c'est le streptocoque du groupe A ou Streptococcus pyogenes. Elle tient son nom de mangeuse de chair d'un de ses symptômes, la nécrose des tissus mous, symptôme qui vient s'ajouter à celui d'une défaillance des organes après une fièvre intense, de violentes douleurs ou un gonflement des membres, un pathogène qui se transmet uniquement d'homme à homme par voie aérienne et qui est mortel dans un tiers des cas, ce qui est énorme. Dans la plupart du temps, la bactérie cause des angines, mais elle peut donc tout aussi bien être responsable soit de méningite, soit de ce fameux syndrome du choc toxique streptocoxique.
Pourquoi on en parle maintenant?
Et parce que depuis le mois de janvier, le Japon subit une véritable épidémie avec un nombre de cas records. Déjà 517 ont été recensés entre le 1er janvier et le 17 mars, soit plus que les 8 derniers mois. Alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter d'une potentielle épidémie en France? Pour l'heure, le terme est sans doute un peu fort, même si ça fait plusieurs années que l'Institut Pasteur alerte sur une forte recrudescence de ce genre d'infection, une situation à surveiller donc. Mauvaise nouvelle pour le parc Marineland d'Antibes, Inuk, l'un des orques, est décédé.
Oui, et c'est d'autant plus une mauvaise nouvelle que c'est la deuxième orque à perdre la vie en seulement 5 mois. Une autopsie sera réalisée prochainement pour déterminer les raisons de la mort d'Inuk, mais quoi qu'il arrive, ce décès est déjà une mauvaise publicité pour le parc, souvent pointé du doigt par les associations de défense des animaux.
Mais est-ce qu'on peut se dire que ces deux morts ne sont dues qu'au fruit du hasard?
Oui, on peut, mais on peut aussi s'étonner de l'âge auquel les deux cétacés sont décédés, 12 ans pour Moana, le premier orque, et 25 ans pour Inuk. À l'état sauvage, ces animaux sont censés vivre environ 40 ans pour les femelles et entre 60 et 80 ans pour les mâles. À Marineland, il reste actuellement deux orques en captivité. L'organisation de protection animale PETA, qui craint un transfert vers des parcs au Japon, a d'ailleurs demandé à Marineland de tout faire pour que ces derniers soient envoyés dans un sanctuaire. Pour la toute première fois, un être humain est capable de jouer à Mario Kart par la pensée.
Oui, et pas qu'à Mario d'ailleurs, mais aussi au jeu vidéo Civilization 6 sur laquelle il a passé la nuit. Tout ça grâce à Neuralink, développé par Elon Musk. Ce petit implant de la taille d'une pièce de monnaie greffée sur le crâne. Et il faut dire que les progrès avancent vite. Il y a deux semaines, il était capable de défier un ordinateur aux échecs par la pensée.
Mais cette puce, elle ne sert pas qu'à jouer aux jeux vidéo, pardon.
Au-delà d'anecdotes, elle permet surtout aux personnes tétraplégiques de pouvoir les soulager au quotidien. Et de leur permettre de pratiquer certaines activités sans aide auxiliaire. Ce patient, qui est le tout premier à recevoir cet implant, connaît d'ailleurs une percée de popularité en prenant la parole régulièrement sur X, lui qui, il y a encore 6 mois, n'avait jamais entendu parler de Neuralink. Et on termine avec des nouvelles de nos invités. Il y a une semaine, malheureusement, il n'y aura pas de Normand en finale de ma thèse dans 180 secondes.
Non, malheureusement, le parcours de Mathilde Guillemois et Corentin Ingrand s'arrête en demi-finale nationale. Les deux Canets représentaient la Normandie lors de ce concours où des doctorants présentent leur sujet de thèse en 3 minutes seulement.
Et prochaine étape pour les qualifier, la grande finale nationale.
Oui, ils sont 16 à espérer un prix à l'occasion de cette finale qui se tiendra à Nice le 5 juin prochain. L'objectif, succéder à Camille Lacliffy, vainqueur du premier prix du jury. La doctorante à l'Institut du cerveau de l'Université Paris-Cité avait même remporté par la suite la finale internationale.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
On a déjà pu le voir dans cette émission, parler de science c'est souvent compliqué et parfois certaines formes d'art peuvent y aider.
Pour cela, Marie Capuccia a créé les éditions Axolotti, une structure engagée en faveur de la sensibilisation à l'environnement par l'art et la science. Elle s'occupe aussi de l'agence artistique Artemis, aussi engagée sur les questions liées à la nature.
Et ça tombe bien puisque Marie Capuccia est notre invitée, bonjour.
Bonjour.
Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer en détail ce que sont les éditions Axolotti ?
Alors en fait, j'ai fondé les éditions Axolotti il y a exactement un peu plus d'un an. Le but était de pouvoir donner la parole à différents auteurs, artistes-auteurs, alors pas que littéraires, hein, ça peut être des illustrateurs, des photographes, des peintres, et prochainement, je vous en parlerai par la suite, un humoriste, chroniqueur aussi d'ailleurs de radio. Le but, c'est de pouvoir donner un support à ces artistes qui parlent donc de nature et d'environnement, et dans la continuité de mon travail en tant que donc éditrice, mais aussi agent d'artiste.
Et pourquoi est-ce que vous avez voulu la créer ? Ça vient d'où cette idée ?
Alors en fait, c'était de pouvoir donner une possibilité de diffusion supplémentaire aux artistes. Donc c'est vrai que historiquement, je suis directrice de l'agence Artemis, donc qui œuvre auprès des artistes qui sensibilisent à l'environnement. Mais j'ai été aussi galeriste, donc j'ai une galerie à Nantes, face au château, à la galerie Equinox. Et donc je voulais donner une possibilité supplémentaire de diffusion. Donc en fait, en tant que diffuseur dans le milieu de l'art, on est pluriel. Hein, on est à la fois galeriste, c'est les mêmes statuts, hein, des diffuseurs, galeriste, commerçant d'art, mais aussi éditeur. Donc, c'est-à-dire qu'on va donner sur un support papier, donc le livre en l'occurrence, une possibilité d'expression aux artistes. Donc ça peut être des artistes, comme je vous disais, très pluriels. Là, en l'occurrence, un des derniers ouvrages, c'était un photographe, réalisateur pour France Télévisions. Mais c'est une manière de pouvoir toucher un plus grand public aussi que de rester enfermé dans un commerce ou dans une galerie ou entre huis clos, quoi.
Et alors, quels sont les différents ouvrages aujourd'hui qu'on peut retrouver dans les éditions ?
Alors en fait, ça va être très pluriel parce que donc on a un an, donc on a eu notre première sortie en novembre dernier, donc Orca, du réalisateur et photographe Stéphane Granzotto. Alors on a aussi une très belle préface de Vincent Munier, hein, vous connaissez, co-réalisateur de La Panthère des Neiges. Donc Orca, c'est un ouvrage qui reprend 4 ans d'expérience de Stéphane Granzotto auprès des orques en Norvège, au nord du cercle polaire. Et donc le but de cet ouvrage était à la fois de pouvoir s'immerger, donc d'avoir un très bel objet, un peu en forme de beau bijou, on va dire, sur des photographies, un travail photographique de quand même 4 ans auprès des orques, de sensibiliser aussi, donner une autre vision des orques et non pas seulement l'a priori qu'on peut avoir de sauver Willy. Et donc là, en l'occurrence, on va suivre des orques lors de chasse des harengs, et c'est très intéressant puisque le propos de Stéphane Granzotto vient illustrer la chasse des orques, mais aussi montrer comment est-ce qu'il peut y avoir des nouvelles, des adaptations, notamment à l'arrivée de cétacés. Ça, c'est très nouveau, ça fait que quelques années qu'il y a des cétacés qui arrivent dans ces fjords au nord de la Norvège. Et donc, on a des photographies qui illustrent ça. Donc, le but de ce premier ouvrage était de pouvoir donner, en fait, une visibilité au travail du photographe qui va venir servir des propos scientifiques et des découvertes des scientifiques. Donc, lui, ça fait 4 ans qu'il va en Norvège avec des scientifiques, par exemple, comme Hervé Glotin, qui enregistre des enregistrements sous-marins des cétacés, donc qui œuvre pour la science de manière assez conséquente, et puis aussi pour la cartographie et la présence des cétacés sur place. Donc ça, c'est notre premier ouvrage qui est sorti en novembre dernier, donc vous pouvez en trouver dans toutes les librairies de France et d'Europe aussi. Et le prochain, donc là c'est un peu une petite nouveauté que je vous donne aussi, c'est un peu un pas de côté. On va donner donc la parole à Pierre Thévenoud. Alors c'est un chroniqueur de France Inter, humoriste qui en France et à l'international en mai, il va aller à Montréal. C'est un humoriste qui va parler aussi d'écologie. Donc en fait, le but de la maison d'édition, c'est de rien s'interdire, mais de parler de nature et d'écologie, et aussi de donner surtout la parole et la place à tous ces artistes qui ont besoin d'avoir un espace d'expression. Donc voilà, prochain ouvrage qui va s'appeler La Part du Pigeon. Voilà, vous êtes les premiers à qui je le dis. Le plan presse arrive bientôt, donc c'est pas encore le cas. Il sort en librairie le 6 juin. Et là, ce sera une petite BD satirique sur l'écologie. Comment parler d'écologie au quotidien, de tout ce qui nous concerne, et surtout un peu désacraliser l'attention qu'on peut avoir vis-à-vis de ça.
Donc ça veut dire un aspect bande dessinée.
Exactement.
Qui succède à un aspect photo, ça veut dire que vous explorez vraiment différentes formes de littérature, pas uniquement, on n'est pas sur uniquement du roman ou autre, on est vraiment sur toute forme, que ce soit sur le fond ou la forme.
Exactement, il n'y a pas de limite en fait. L'année prochaine, on aura d'autres projets, on va revenir un peu à de la photo, on aura des livres un peu plus pédagogiques, en tout cas ça sera toujours autour de ces thématiques art et nature, ça c'est vraiment notre ligne, mais on ne s'interdit rien, on essaye de faire des beaux objets parce qu'on est très attaché à objets livres. Ma petite maison d'édition elle est petite, hein, mais j'ai des collaborateurs très variés, j'ai une attachée de presse aussi très engagée, des avocats autour de moi qui travaillent dans le milieu de l'environnement. Mais en fait, les artistes, ils sont pluriels. On a l'habitude de parler souvent des artistes comme des peintres ou des dessinateurs, mais en fait, un chroniqueur radio, c'est un artiste. Il écrit ses textes, il fait de l'humour. Et donc, là, on a associé un illustrateur pour La Part du Pigeon qui sort en juin, donc Stéphane Bouzon et Pierre Thévenoud. Donc, deux univers qui se rencontrent, qui n'ont initialement pas forcément à voir ensemble, mais qui vont aller parler d'écologie ensemble. Et c'est une petite BD très courte, hein, mais qui va venir faire des petites scénettes un peu pour se poser des questions et puis aussi se détendre un petit peu sur ce qui se passe, parce que le problème de parler d'écologie, c'est qu'on entend énormément parler, alors c'est une bonne chose, mais il y a aussi une inhibition à force de saturation. Donc, faire des livres qui permettent de faire la contemplation et de parler des animaux comme les orques ou à des spécialités vraiment très précises, ok, et après, à un moment donné, prendre un peu de recul aussi ou proposer bien des ouvrages qui soient plus généralistes et qui puissent toucher le plus large spectre possible.
Alors vous parlez d'écologie, d'environnement, c'est des thèmes qui sont récurrents, pour pas dire omniprésents, dans les ouvrages que vous publiez. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix de vous concentrer sur ces thématiques-là en particulier ?
Alors en fait, pour tout vous dire, c'est une histoire qui remonte à quand même plusieurs années. Donc je peux pas faire l'abstraction de mon parcours pour vous expliquer pourquoi j'ai créé Axolotl aujourd'hui. Moi en 2015, je suis allée en Amazonie. Alors à l'époque, j'étais pas du tout dans le milieu de l'art. Enfin, je faisais un peu de photos moi en tant que photographe, mais j'étais pas professionnelle du milieu de l'art. Et en fait, j'ai eu un déclic parce que j'ai accompagné des scientifiques dans l'Amazonie brésilienne. Donc j'ai suivi un groupe de scientifiques brésiliens qui venaient référencer les traces des grands félins dans cette partie très reculée de l'Amazonie, et j'ai eu des expériences assez saisissante. On a vu un puma et un jaguar pigmenté. Alors les jaguars pigmentés, c'est une forme de jaguar mais sombre, vous savez, avec des taches un peu plus marron, et qui sont très rares à observer. Et donc en fait, on est dans la jungle, on entendait des grognements, et puis j'ai au début cru que c'était un bruit de moto, je me suis retournée, et en fait là on a vu un jaguar. Et en fait à ce moment-là, je me suis dit, ok, ma place, on n'a qu'une vie. Il faut y aller, c'est maintenant. Ma place, elle n'est pas à l'époque, j'étais art thérapeute, donc j'avais toujours un pied dans l'art, hein, mais j'étais une formation initiale en thérapie, bon, j'étais pas du tout dans le même milieu. Je me suis dit, je veux œuvrer pour cette nature, je veux faire quelque chose et je veux me mettre au service de la nature. Donc du coup, j'ai créé une galerie d'art à Nantes qui vraiment exposait des artistes, alors de tout horizon, peintres, sculpteurs, photographes, j'ai même eu quelques artisans, mais qui étaient uniquement au service de la nature, donc ils s'en inspiraient. Et c'est au fur et à mesure de ces expériences-là, de rencontres, j'ai après monté donc l'agence Artemis, qui œuvre donc pour les artistes sur ces thématiques, on en parlera.
On en parlera tout à l'heure, oui.
Voilà, et du coup, au fur et à mesure, j'ai voulu donner une possibilité supplémentaire de diffusion. À défaut de réouvrir une autre galerie, je me suis dit, bah voilà, comment toucher le grand public ? Parce que ce qui est compliqué, c'est qu'une galerie d'art, tout le monde ne franchit pas le seuil comme ça. Je me rappelle ouvrir la porte, mettre des panneaux, vous êtes bienvenus, n'ayez pas peur, etc. Mais il y a encore un gros a priori sur le marché de l'art, on pourra en parler parce que j'œuvre aussi pour le marché de l'art et la formation des artistes. Et donc du coup, pouvoir ouvrir et toucher le grand public, parce que c'est ça la nécessité en fait, parler à des avertis, ça on le fait tous les jours. Les spécialistes, ils sont spécialisés, ils savent de quoi ils parlent, ils comprennent, ils ont l'habitude. Mais en fait, le grand public n'a pas forcément accès aux informations, que ce soit scientifique ou artistique, et du coup le support du livre est génial parce que vous retrouvez dans toutes les librairies de France, vous retrouvez dans des petites librairies indépendantes comme dans des gros centres commerciaux, et c'est ça que je voulais faire, c'est-à-dire de pouvoir aussi donner une possibilité aux artistes qui parlent de la nature d'avoir plus facilement accès à ce grand public. Et donc la maison d'édition venait en complément de ce parcours-là, assez à la fois personnel et puis ensuite généralisé sur la nature.
Et est-ce que parler de science et d'environnement, de nature en général, à travers la littérature, c'est quelque chose de différent de parler d'autres sujets
En fait, c'est pas différent. C'est-à-dire que quand on parle de science ou de nature, en fait, on parle toujours d'humain. C'est-à-dire qu'on est toujours des humains entre humains et on s'adresse entre nous. Je veux dire, on va pas prendre un petit lapin et lui parler d'écologie et il va nous répondre, non. Donc finalement, c'est juste prendre une autre porte d'entrée en se disant, voilà, on va parler de la nature, de l'écologie, c'est une thématique, mais ça reste des humains entre nous. C'est-à-dire que demain, comment on fait pour s'en sortir ? On dit toujours, on va sauver la planète. Entre nous, c'est pas la planète qu'il faut sauver, c'est nous. la planète s'en sortira très bien sans nous. Donc en fait, il y a une mutation qui est en cours. Certes, il faut alerter dessus et il faut aussi ouvrir les yeux sur comment est-ce qu'on se positionne nous en tant qu'être humain. Donc finalement, non, c'est pas différent. C'est juste que c'est une thématique de traitement et une voie sur laquelle il y a beaucoup d'artistes qui travaillent, mais qui sont pas forcément, qui n'ont pas forcément autant de place aujourd'hui. Des illustrateurs qui peuvent s'associer à des personnes qui vont faire un peu plus de contenu littéraire. Donc une diversité de propositions, mais qui va aller vraiment dans le but de pouvoir toucher un grand public et de vraiment parler d'humain à humain, quoi. Et pas forcément de spécialiste à spécialiste.
Et quels sont les liens qui existent aujourd'hui entre science et littérature? Comment est-ce qu'on arrive à marier les deux?
Alors, en fait, vous avez, quand vous êtes d'une culture scientifique, enfin, moi, j'ai un master en neuropsychologie, donc je connais aussi un peu le milieu scientifique, vous allez rester dans une publication qui sera centrée et avec une direction très spécifique, avec un public spécifique, avec une cible très spécifique. Lorsque l'on va s'adresser à des thématiques aussi généralisées aujourd'hui que l'écologie, donc heureusement l'écologie aujourd'hui, tout le monde en parle, mais tout le monde en parle soit de manière répétitive, soit de manière punitive, de jugement, avec un engagement particulier. Moi, ma maison d'édition, elle n'a pas d'engagement particulier. Je ne vais pas dire il faut, plus trier, arrêter de polluer, arrêter de réduire les airs, les pauvres papillons, il n'y en a plus. Enfin, non, il n'y a pas d'engagement dans une direction particulière. Je vais juste donner la parole aux artistes qui, eux, vont donner leur vision. Donc du coup, je vais avoir des ouvrages qui vont parfois aller dans une direction et puis les autres vont venir un petit peu être, on va dire, mettre un peu plus d'eau dans une direction un peu plus trop engagée, donc très varié. Le prochain ouvrage qui sort en juin, La part du pigeon, on a une préface de Guillaume Meurice, très sympathique, très, 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 très sympa, très drôle, vous allez voir. Et donc on sait que c'est des acteurs qui sont, très tranchés vis-à-vis de ces thématiques-là. Mais Pierre Thévenoud, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui va parler de société, donc l'humoriste, et qui va parler de manière plus abordable, plus accessible et pas forcément aussi tranché politiquement. Donc il n'y a pas de positionnement forcément politique dans la maison d'édition, mais c'est donné sur un support qui est oui certes la littérature, mais aussi parfois comme les beaux livres comme Orca qui est un support quand même 80% visuel, hein, parce qu'on a vraiment purement que de la photo, quelques témoignages, mais...
Et oui, est-ce qu'aujourd'hui les auteurs d'ouvrages à visée scientifique, que ce soit des scientifiques de métier ou alors des artistes comme Pierre Thévenoud, ont plus tendance à adopter une écriture qui serait plus grand public et plus accessible? On a compris que c'était visiblement plutôt le cas dans votre maison d'édition, mais est-ce que c'est un cas général?
En fait, ce qui est très compliqué, c'est millions d'éditions. Alors ça, je vais pas forcément vous l'apprendre, mais moi, je suis une petite maison d'édition. Je me bats tous les jours pour essayer de faire ma place. J'ai la chance d'avoir un distributeur, un diffuseur, mais c'est quand même, je me confronte à des gigantesques, des millions d'euros face à moi, des millions des immeubles, des tanks. Et donc, en fait, c'est un combat tous les jours pour déjà, moi, en tant que petite maison d'édition, arriver à mettre mes ouvrages dans les librairies. Donc, quand vous avez un ouvrage qui va parler de manière plus technique, qui va pas forcément avoir la clé de lecture, où va falloir avoir une explication à côté, ils ont tout simplement une sorte d'inhibition naturelle. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver dans des lieux spécialisés, dans des colloques, dans des conférences, mais vous n'allez pas vous retrouver dans la librairie du coin de grande distribution ou autre. Et donc, à un moment donné, il faut faire un choix. Donc, il y a des personnes qui font ça très bien, des petits éditeurs ou alors des auteurs qui s'auto-éditent et qui vont dans des lieux spécialisés, des rencontres. Et puis, j'ai moi-même été responsable éditoriale avant avec, je fais une collaboration avec le comité français de l'IUCN, donc j'étais présente au Congrès mondial de la nature. On a fait un livre qui était, qui prenait des éléments scientifiques et qui les retraduisait pour le grand public. Mais en fait, c'est assez simple, c'est que si vous voulez parler à un spectre de personnes qui sont pas tous, qui n'ont pas tous accès aux mêmes données, aux mêmes informations, et bien, il faut bien avoir un langage commun. Et donc, du coup, ce langage commun, parfois, oui, il faut le lisser un petit peu, mais c'est un parti pris. Voilà. Soit on est dans la grande distribution, on va essayer de rendre les portes un peu plus grandes et accessibles, soit on passe par des petites portes, et dans ce cas-là, on n'est pas dans le même système. Moi, j'ai vraiment fait ma place avec Axolotl comme une maison d'édition distribuée, revendiquée. On est en Belgique, en Suisse, dans toutes les librairies de France. C'était aussi pour que je puisse être à la hauteur de ces artistes que j'ai envie de diffuser. Donc, il faut que je puisse leur donner ces possibilités, pas leur dire, venez chez Axolotl, mais derrière, vous allez avoir 3 bouquins dans 3 librairies. Là, voilà, là, on est dans toute la France, c'est une porte d'entrée que je veux leur donner.
Et ce parti pris de vulgarisation et d'accessibilité vis-à-vis de vos lecteurs et lectrices, est-ce que vous constatez un attrait croissant de ce lectorat pour ce type d'ouvrage, justement ?
Alors, je ne saurais pas vous répondre exactement, puis je n'aurais pas la prétention, parce que ma maison d'édition est assez récente quand même, de vous dire s'il y a une croissance ou autre. Il y a un intérêt du grand public, c'est sûr, mais par contre, ce qu'on constate, il y a aussi une lassitude. Et notamment chez les jeunes. J'ai constaté, il y avait... Alors, moi, je suis d'une génération de la fin des années 80, hein, donc je veux dire, il y a à peu près 10-15 ans, il y avait vraiment une Greta Thunberg, un mouvement, voilà. Les trentenaires, on va dire, de notre génération, on est toujours au taquet, nous. Mais par contre, je constate que chez les jeunes sortant du lycée, alors après, il y a eu le Covid aussi, il y a plein d'éléments... Il y a une sorte de léger désengagement, il n'y a plus le même propos, c'est pas forcément la même manière. Alors, il y a plus des groupes ou des minorités. Et donc, en fait, c'est constant, il faut jamais lâcher. C'est-à-dire que parler d'écologie, c'est pas acquis du tout, du tout. Et donc, il faut constamment réactiver ce sujet-là. Donc, je dirais pas qu'il y a un accès, qu'il y a un intérêt grandissant. Par contre, il y a une visibilité plus importante. C'est sûr, il y a de plus en plus d'émissions, plus ou moins grande diffusion sur ces thématiques-là. Oui, c'est clair. Mais derrière, je pense pas que ce soit acquis, et notamment chez les jeunes. Donc, c'est pour ça aussi l'aspect BD grand public, accessible, voilà, petite BD de 48 pages, facile, rigolote. C'est aussi une manière de réinvestir une population qui pourrait avoir des problématiques aujourd'hui, politiques, inflation, difficulté d'emploi, enfin tout ça, qui va venir prendre le dessus.
Sur votre site internet, il est écrit que Axolotti soutient les auteurs qui ont une approche empirique et concrète de leur sujet. Ça veut dire quoi concrètement ?
Alors en fait oui, c'est une très bonne remarque. Par exemple, Stéphane Granzotto, c'est un photographe réalisateur pour France Télévisions. Il va sur place, il va se geler les miches en Norvège, il va se rencontrer. En fait, c'est très important pour moi d'avoir des artistes qui vivent de manière sensorielle avant tout pour pouvoir le retranscrire de manière esthétique et forte. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des artistes qui vont rester bien au chaud dans leur atelier et qui vont imaginer, idéaliser, vous peindre des jaguars, des pumas, des colibris, tout ce que vous voulez, mais qui vont pas aller à la rencontre de l'animal. Vous avez des artistes qui vont se prétendre être intéressés par la nature, mais qui vont pas aller marcher pieds nus dans l'herbe. Enfin, moi, j'ai besoin d'avoir des artistes qui se sont confrontés eux-mêmes par empirisme vraiment sur le terrain et qui connaissent leur sujet parce qu'ils l'ont vécu, parce qu'ils ont rencontré. Stéphane Granzotto, il s'est pris une claque d'une dorsale de baleine quand même. Enfin, je veux dire, quand il a plongé, il s'est retrouvé dans un banc de harengs complètement piégé. Enfin, il a des anecdotes à vous raconter, à pas s'arrêter. Il travaillait aussi avec François Sarano, peut-être que vous connaissez, sur les cachalots, hein. À travailler avec Cousteau, François Sarano. Et il a grande expérience des cétacés. Stéphane Granzotto, il a fait un très beau reportage sur les cachalots et prochainement les orques. Enfin bref, donc il est très engagé et donc il va sur le terrain.
Oui, il ne s'agit pas d'avoir des sortes d'essais un peu au doigt mouillé.
Exactement, exactement. Il faut connaître son sujet pour pouvoir en parler. Et puis ensuite, après, c'est un point de départ. C'est-à-dire que les artistes ne revendiquent pas avoir eux-mêmes la connaissance scientifique. Mais en fait, ils permettent de médiatiser ce que les données scientifiques ne permettent pas, de rendre tangible les choses. Et donc, quand vous avez une conférence, quelqu'un qui va vous expliquer que il y a des nouveaux cétacés qui arrivent, vous avez des grandes baleines qui arrivent dans ces fjords alors qu'elles n'avaient pas avant, qu'à un moment donné il y a un conflit de clans avec des orques et des cachalots et que ça se balade dedans et qu'ils sont décidés d'une hiérarchie, enfin il y a tout un truc. C'est intéressant quand un scientifique vous le raconte, mais c'est encore mieux quand vous avez le photographe qui vous explique avec tellement de sensibilité que vous êtes mouillé dans votre combinaison de plongée, vous-même vous ressentez ce que c'est que d'avoir des harengs qui passent partout, vous ressentez le froid, vous ressentez l'œil du cachalot qui va vous regarder, cet instant incroyable. Et en fait, Stéphane Granzotto, quand il parle de son travail de photographe réalisateur, il vous fait toujours regarder. J'ai toujours la chair de poule. Et en fait, c'est ça qui manque aussi aujourd'hui et c'est une nécessité en fait de ressentir. Et c'est jamais acquis comme l'écologie, c'est jamais acquis de toujours essayer de garder cette connexion sensorielle au monde dans lequel on est.
Dans quelques instants, on parle de l'agence Artemis que vous gérez également et qu'on a évoqué en ce début d'émission. Mais avant, on va faire une pause musicale et écouter Cold Touch de Later. À tout de suite dans C'est pas faux. Cheeks. Now I'm longing for your touch.
the joke was on you. Now the joke's on me. You better send me shivers.
C'était Cold Touch de Later, vous êtes toujours sur Radio Phoenix à l'écoute de C'est pas faux et aujourd'hui nous sommes avec Marie Capuccia pour parler de science à travers l'art. Marie Capuccia qui est directrice de la maison d'édition Axolotti et en parallèle vous vous occupez aussi de l'agence Artemis, est-ce que vous pouvez nous la présenter?
Alors l'agence Artemis, oui c'est une agence qui a été fondée donc, à l'issue de la création de ma galerie d'art à Nantes. Donc le but de cette agence est de pouvoir accompagner des artistes qui se dédient à l'art et à l'environnement, enfin qui dédient leur art à la nature et à l'environnement. Donc des artistes très variés, ça peut être des plasticiens, photographes, réalisateurs, arts visuels, sculpteurs, auteurs aussi littéraires. J'ai même accompagné une actrice pour tout vous dire. Et en fait cette agence a vraiment intérêt de venir en fait catalyser le pouvoir des artistes et leur carrière. Donc en fait aujourd'hui d'être artiste c'est très compliqué. Pas parce qu'il n'y a pas de débouchés ou qu'on n'en vit pas, simplement parce qu'il y a une méconnaissance du métier. Ça, c'est un très gros problème. Donc, j'ai aussi conçu il y a un an et demi une formation pour les artistes professionnalisantes parce que aujourd'hui, être artiste, c'est pas uniquement peindre dans son atelier. Au début, quand vous lancez, c'est que 20%. 80%, c'est de la prospection, c'est beaucoup de travail. Et aujourd'hui, des artistes qui sortent des beaux-arts ou autres, bah, vont faire 5 ans d'études mais vont pas rien connaître sur les droits d'auteur, savoir comment exploiter leurs œuvres, etc. Donc, c'était dans une double dynamique. C'était à la fois accompagner les artistes pour qu'ils vivent mieux de leur art, qu'ils soient mieux défendus et qu'ils puissent aussi avoir plus accès à ce que c'est que le métier d'artiste, mais en même temps c'était donner cette place et encourager aussi des projets d'artistes qui se dédient à la nature et aussi à la science.
Et quelles sont les différentes formes d'art que vous explorez dans cette agence?
Alors, il y a beaucoup de peintres, de plasticiens, mais il y a aussi de photographes, réalisateurs. Donc, pour vous donner quelques exemples, j'ai accompagné des photographes dans des expositions de musées d'histoire naturelle, à Nantes notamment, comme Ferial ou Nicolas Aurillard, Stéphane Grandzotto aussi en l'occurrence. Et des peintres, en fait, il y a beaucoup de plasticiens aujourd'hui, alors dans l'art contemporain, et qui font des choses très investies, donc j'en parlerai aussi par la suite, mais j'ai commencé aussi avec beaucoup de peintres parce que la peinture, ça parle aussi à tout le monde, et c'était pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'était aussi pour rester dans un aspect médiatisation grand public. Et l'intérêt de peintre à peindre des petits chats, des petits pingouins ou tout ce que vous voulez, c'est pas que ça reste dans un atelier, c'est qu'il y a un propos derrière. Et donc l'important pour un artiste, pour qu'il puisse faire sa place dans le monde de l'art, c'est d'avoir une identité très claire, cohérente, et d'avoir une démarche artistique construite. Parce qu'un artiste, c'est un entrepreneur, donc il faut qu'il prenne sa place. Et ça, souvent les artistes ont un peu du mal à le voir. Et quand ils travaillent sur la thématique de la nature, c'est pas juste avoir un propos illustratif en disant « voilà, c'est joli ». C'est derrière... Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on parle des pollinisateurs ? Mais c'est quoi ? Alors, c'est parce qu'on va venir étayer un article scientifique ? Est-ce qu'au contraire, on va venir de dire « oh, c'était mieux avant », on parlait du printemps silencieux, par exemple ? Ou alors, est-ce qu'on va dire « oui, je parle des cétacés ou des migrations, mais alors est-ce que je parle du réchauffement climatique qui va venir réchauffer les eaux, du coup, c'est pas les mêmes migrations, etc. ?» Ou alors, est-ce que je vais juste venir témoigner d'une expérience esthétique et puis la permettre au grand public de l'avoir également ? Et donc, l'agence a vraiment voulu cibler, en fait, ces artistes-là pour leur donner des possibilités. Concrètement, pour vous donner des exemples, dernièrement, donc je travaillais avec l'artiste Jérémy Gobet, qui est un plasticien, qui vraiment a cette ambivalence entre l'art et la science. Et, enfin, il n'a pas fait une ambivalence, c'est pas forcément le bon mot, il en a fait vraiment une puissance et une force. C'est un artiste qui à la fois s'inspire de la nature, mais lui-même concepteur de données scientifiques, parce qu'il a déposé un brevet, il a conçu un béton écologique biosourcé, biodégradable, et qui permet la régénérescence des coraux. Donc en fait, avec Corail Artefact, Jérémy Gobet a donc conçu un dispositif qui permet concrètement d'être utilisé par les scientifiques. Il est immergé dans de l'eau, vous avez les coraux qui peuvent s'y attacher, se reproduire de manière plus conséquente et de manière totalement biodégradable et saine. Et donc cet artiste-là, on a fait ensemble un projet à l'Aquarium de Paris l'année dernière. C'était donc une installation immersive monumentale qui venait accompagner la création d'un nouvel espace sur les coraux dans l'Aquarium de Paris. Et donc cette installation est réalisée en fait en tricot de mailles, c'est de la laine en fait tricotée, hein, c'est que des tissus recyclés, biosourcés, coton, enfin je veux dire c'était pas, rien de polluant. Et en fait... C'est inspiré des symboles de cerveau de Neptune qui sont la matrice que l'on retrouve souvent chez certains coraux, un motif en fait. Et donc il a conçu une installation monumentale dans laquelle vous pouvez rentrer, vous êtes immergé et vous avez cette sensation d'être vous-même remis comme étant un élément parmi les coraux. Donc vraiment redonner de l'ampleur à ces petites bestioles. Bon, c'est un exemple parmi d'autres. J'ai pu faire avec une peintre une fresque gigantesque à l'aéroport de La Rochelle sur un rorqual taille géante. Voilà, j'ai été au Congrès mondial de la nature pour justement parler de nature et accompagner le projet de... En fait, nous étions avec le spationaute Jean-François Clairvoy et donc il a parlé de son rapport à la planète lorsqu'il était en sortie extraterrestre, etc. Et donc, on avait besoin de support. Donc, il a fait appel à nous et donc, on a projeté en grandeur, de manière gigantesque, des peintures de l'artiste pour pouvoir illustrer ses propos. Et donc, en fait... La légitimité de l'artiste, elle est vraiment de pouvoir médiatiser les propos scientifiques dans ces situations-là. Et là, c'est génial parce que ça donne une complémentarité parfaite. Vous avez le concept, vous avez ce qui est intelligible et vous avez ce qui est sensoriel, ce qui est sensible. Et donc, avec mon agence Artemis, on choisit des projets comme ça. Donc, on a plusieurs volets. Soit on accompagne les artistes pour le développement de leur carrière, donc on fait quelques éléments de coaching, soit on fait vraiment le mandat de représentation typique, donc c'est-à-dire mandat d'agent qui représente l'artiste, amis du monde extérieur et tous ses projets.
Alors sur le site en présentation, vous parlez de convergence humaine et artistique. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
Bah c'est un petit peu comme ce que je vous expliquais pour Axolotl, c'est-à-dire que moi j'attache vraiment une importance primordiale à la sincérité des artistes et des collaborateurs. Le milieu de l'art, c'est un milieu aussi de gros business. Hein. C'est comme l'immobilier ou le luxe. Hein. C'est quand même un milieu qui a du mal aussi à subir la crise, finalement, hein, parce que les grands investisseurs, il y en a beaucoup qui viennent de l'étranger, mais c'est un milieu qui est quand même très difficile. Et donc, on peut se confronter à des diffuseurs qui ont bon, clairement des intérêts uniquement financiers. Donc là, aujourd'hui, quand on parle de nature ou d'écologie, on a besoin de personnes qui sont dans la sincérité et qui ne sont pas dans un aspect narcissique. Donc en fait, cette petite phrase rajoutée, c'était aussi parce qu'il y a 250 000 artistes déclarés en France. 250 000 déclarés. C'est-à-dire que y en a plein qui ne sont pas encore forcément professionnels ou autres. Donc, parmi ces 250 000, bien sûr, ils ne parlent pas tous de nature et d'environnement, mais ceux qui parlent de nature, j'ai besoin d'avoir des personnes qui sont vraiment, comme je vous disais, au contact du terrain et qui savent de quoi ils parlent, et aussi qui sont dans ce témoignage de ce que c'est que d'être au monde, d'être en vie, parce que vous ne pouvez pas parler des coraux, des cétacés, des jaguars, je ne sais quoi, ou des pollinisateurs, si vous-même, vous n'avez pas une expérience personnelle, empirique et concrète. Et donc, j'attache une importance aussi dans les collaborations qu'on fait, c'est-à-dire que dans les associations avec qui on peut travailler, dans les institutions, j'ai travaillé avec le ministère de la Transition écologique, j'ai aussi rencontré Cyril Dion, Nicolas Hulot, etc. Mais je fais des choix parfois de ne pas aller forcément plus loin parce que quand je vois que c'est pas fluide ou sincère. Et ça, c'est quelque chose que je ne perdrai jamais, je pourrais mourir pour ça. Mais ma sincérité, c'est quelque chose pour lequel je me bats parce que de toute façon, c'est toujours ça qui fonctionne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez beau raconter le récit que vous voulez, le storytelling que vous voulez, si au fond de vous, vous n'êtes pas purement convaincu que c'est votre place, que c'est ce que vous voulez faire, à un moment donné, ça ne marchera plus. Ça ne marchera plus.
Oui, on en revient à la légitimation que vous donniez sur l'édition, c'est-à-dire pas n'importe qui, pas forcément des scientifiques experts, mais en tout cas pas n'importe qui.
Exactement. Et quand vous dites pas n'importe qui, c'est important de signaler que c'est pas des notoriétés. Alors là, j'ai eu la chance d'avoir préface Vincent Munier, d'avoir la confiance des Guillaume Meurice, etc. Mais ça pourrait être aussi quelqu'un qui, du jour au lendemain, va se mettre à écrire son premier livre. Je fais pas d'échelle de grandeur, il n'y a pas d'importance de notoriété. C'est surtout par rapport à la sincérité et à l'humanisme de la personne. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, finalement, l'art, c'est fait par des humains pour des humains. Et même si on parle de nature ou de petits lapins, ça reste quand même des humains. Et donc, moi, je m'attache vraiment fortement à cette sincérité-là. Après, c'est des convergences. On travaille ensemble sur un court terme ou du long terme. Mais je m'attache vraiment à sentir qu'au moins, on regarde dans la même direction.
Et au-delà de ces artistes que vous choisissez, vous avez des partenariats avec des structures scientifiques comme le Muséum d'Histoire Naturelle. Qu'est-ce qu'elles vous apportent et comment est-ce qu'elles se matérialisent, comment ce partenariat ?
En fait, les partenariats Musée d'Histoire Naturelle, Aquarium de Paris, Comité Français de l'IUCN, par exemple, c'est des partenariats qui sont unitaires, c'est-à-dire ponctuels sur des projets ponctuels. Donc à chaque fois, vous allez avoir la sortie, par exemple, le Comité Français de l'IUCN, avec le Musée d'Histoire Naturelle de Paris, gère la liste rouge des espèces menacées. Et donc ensemble, on a eu un projet il y a 4 ans de créer un livre sur les espèces menacées, mais pas simplement une répertoration de toutes les espèces menacées en France et en Outre-mer. On a choisi certaines espèces, des connues et des beaucoup moins connues, et on a décidé de faire travailler une peintre pour pouvoir les mettre en valeur et pouvoir en parler. Et maintenant, ce livre, il est présent dans des conférences scientifiques.
Et là aussi, dans l'intérêt de le rendre le plus accessible possible.
Exactement, exactement. Mon travail, en fait, c'est de médiatiser, c'est-à-dire que les artistes, ils vont venir saisir ce qu'ils perçoivent du monde, vont venir le traduire et le questionner, et ensuite on le met au grand public. Le but d'une diffusion d'un artiste, c'est que ce soit le plus large et plus grand public possible, sinon ça reste dans son atelier et ça n'a pas d'intérêt. Et donc le Musée d'Histoire Naturelle, par exemple, ça a été dans le cadre d'une association qui fait Nature Nomade à Nantes, par exemple, et donc ils m'ont missionné de réaliser une exposition de photographie en lien avec la thématique. Donc en fait, c'est très ponctuel. J'interviens de manière vraiment très spontanée, mais c'est des choses régulières qui se répètent. Je ne suis pas missionnée officiellement d'eux, je reste indépendante et au service des artistes avant tout.
Et à l'inverse, quel est l'intérêt pour des structures comme celle-ci de travailler avec une agence artistique comme la vôtre ? Qu'est-ce que ça leur apporte ?
Alors, j'ai eu une fois la remarque d'une... d'une responsable de culture qui m'avait dit « On travaillera avec vous parce que dans ce dossier de candidature, il y a un agent. » Et en fait, ça fait toute la différence parce que il y a des artistes qui n'ont pas du tout besoin d'agents. Et tous les artistes n'ont pas besoin d'agents. Ça, c'est quelque chose que je répète aussi souvent sur mon compte Instagram. Mais en fait, il manque parfois une rigueur et une construction. Et quand vous avez un agent, vous avez la garantie que de la contractualisation à la livraison, à la finalisation, au règlement, tout sera carré. Parce que moi, je suis garant de ça. C'est ma responsabilité que je mets en jeu. Quand on fait aussi des appels 1% ou des gros projets, c'est indispensable d'avoir une tierce personne extérieure qui va venir dire à l'artiste « Bon, tu te bouges ». Concrètement, c'est un peu ça. Et donc, souvent, les institutions aiment beaucoup avoir...
c'est un contrat qui sécurise le...
Exactement, un intermédiaire tierce qui va venir, fait sécuriser, comme vous dites exactement, à la fois le travail et la garantie de la qualité aussi du travail, du respect du cahier des charges, etc. Donc, notre travail, il est là de garantir le respect du cahier des charges, les conditions de réalisation, et certes, on représente l'artiste, mais quand on est dans un contrat tripartite, on représente les deux parties. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si l'Aquarium de Paris ne sont pas contents, moi, je vais aller disputer l'artiste. Et si le Musée d'Histoire Naturelle me dit « là, il y a un retard de livraison », voilà, je me mets vraiment entre... L'agent est vraiment entre l'artiste et le monde extérieur.
Merci beaucoup, Marie Capuccia, d'être venue à notre micro. Je rappelle, vous êtes directrice des éditions Axolotti et gestionnaire talent à l'agence Artemis. Bonne journée à vous.
Merci beaucoup.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
C'est pas faux, c'est bientôt terminé, mais avant de se quitter, voici l'agenda de la semaine.
Et on commence cet agenda avec le Dôme et l'Université de Caen qui vous propose à partir de lundi prochain le Turfu Festival, l'événement consacré aux sciences et à la recherche participative qui est de retour pour une 8e édition. Au programme des ateliers et des rencontres avec cette année, une édition tournée vers le vivant. Notez d'ailleurs que mardi prochain, nous serons en direct du festival pour une émission spéciale. Le Turfu Festival, c'est du 8 au 13 avril. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site turfu-festival.fr.
Et puis comme chaque semaine, votre recommandation documentaire, Arte vient de sortir en accès libre sur sa chaîne YouTube un documentaire sur les laves de Reykjanes dans cette péninsule islandaise. Pays connu pour sa forte activité volcanique, des scientifiques étudient les mécanismes éruptifs de la dorsale médio-atlantique située au fond de l'océan. Islande, la magie des laves de Reykjanes, est un épisode de la série des volcans et des hommes et c'est disponible jusqu'au 28 mai sur la chaîne YouTube d'Arte.
C'est pas faux, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédentes en podcast sur phoenix.fm.
Merci à Emmanuel à la technique aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine dans quelques instants. Rendez-vous avec Johan pour la Méridienne. Passez une bonne journée sur Radio Phoenix.